La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Salut Paris, ce soir c'est Gogo à l'animation. Le soleil de votre soirée est arrivé. D'ailleurs, le soleil à Paris est arrivé et il a très vite disparu. On dirait Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Éducation ou Emmanuel Macron au salon de l'agriculture ou la bouteille de chardonnay devant moi en terrasse le samedi soir. J'avais dit juste un verre. Ils servent des immenses verres aussi, bon. Et alors, Aya Nakamura, peut-être au JO, ils sont pas contents les fachos. Marion Maréchal Le Pen, invitée surprise dans l'émission Pascal Pro et vous, est-on vraiment surpris qu'il invite l'extrême droite? Pas vraiment. Elle a donc dit, je cite, « Emmanuel Macron a envie de dire au monde qu'aujourd'hui, le visage de la France, c'est celui de la France multiculturelle. Ce n'est plus celui d'une nation avec ses racines chrétiennes de culture européenne, c'est d'abord celle issue justement de la banlieue, des cités, avec toutes ses influences extra-européennes. » Alors, à savoir que là, elle déplorait. Elle n'est pas d'accord avec le président. Pascal Pro, lui, il a l'air hyper d'accord avec elle, en tout cas. Ah, c'est News, ce beau média qui ne met pas du tout en valeur l'extrême droite. Chante, Aya, chante, tu représentes la France avec toutes ses influences. Tu es la chanteuse francophone la plus écoutée au monde. N'en déplaise à tous ces réacs. Tu as bien plus d'audimat que Pascal Pro et Cyril Hanouna. Et ça me remplit de joie. Sans transition, le gouvernement vient de faire sa plus grande commande de grenades de maintien de l'ordre depuis 10 ans. L'achat est estimé à plus de 78 millions d'euros pour les 4 prochaines années. Le dernier achat de ce genre avait coûté 17 millions en 2018 pour 660 000 grenades et 740 000 moyens de propulsion. Aujourd'hui, la commande est 4 fois et demi plus importante. Cet appel d'offres est divisé en 8 lots de diverses références de grenades assourdissantes, lacrymogènes et de cartouches grenades, mais aussi des explosifs et assourdissantes dont certaines jamais encore employées. Ah ben ils s'équipent les JO, les ruinent pas trop apparemment. On va servir de cobaye pour leurs grenades, c'est sympa, ça tient. J'ai quand même vachement envie d'aller manifester pour la paix maintenant. Les Français font que des manifs, gna gna gna, ils font que râler. Oui, mais quand ton gouvernement investit autant dans le soi-disant maintien de l'ordre, qui est plus, soyons très honnêtes, de la répression des libertés d'expression et de réunion, je trouve ça normal et même nécessaire de les descendre dans la rue. Vous écoutez Radio Campus Paris. Hop là, excusez-moi, je suis à vous tout de suite. Tout de suite le sommaire. En première partie d'émission, nous serons avec Élodie et Sylvie qui nous parleront de l'IVG dans la Constitution et de qu'est-ce que cela change en compagnie de la responsable plaidoyer pour les droits des femmes et les minorités de genre au sein d'Amnesty International. En deuxième partie viendra le tour de la chronique de Anne-Sophie, puis ce sera le Zoom. J'interrogerai l'équipe qui organise le salon de la nutrition de l'école diététique et nutrition humaine. Nous enchaînerons avec un deuxième Zoom. Justine Vunda questionnera Fahad Afredi pour son second album Golden Cage. Et nous clôturerons avec la chronique de Pascado, aka Pascaline. Vous avez le programme, il est 19h04. Nous avons encore 55 belles minutes à passer ensemble sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale de 19h.
La matinale de 19h.
Et il est 19h04, nous allons parler de l'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce que cela change? En compagnie de la responsable plaidoyer pour les droits des femmes et les minorités de genre au sein d'Amnesty International, Lola Schulman. Et tout de suite, je laisse la parole à Élodie et Sylvie.
Bonsoir. Alors en effet, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. C'est la formulation qui sera désormais inscrite à l'article 34 de la Constitution. Après le vote favorable de l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2024, le Sénat a aussi voté en faveur de cette inscription pour que finalement le 4 mars, le vote pour cette inscription dans la Constitution soit approuvé par le Congrès de Versailles. Une victoire historique au regard du long combat des féministes depuis les années 70 pour la légalisation de l'IVG. Victoire historique mais en demi-teinte car la proposition de loi constitutionnelle initiale des parlementaires de gauche parlait de créer un nouvel article afin de garantir l'effectivité et l'égal accès au droit à l'IVG. En effet, la différence portée sur ces termes de droit et de liberté ont leur importance. Et pour parler de ce sujet, on reçoit ce soir Lola Schulman. Vous êtes responsable plaidoyer pour les droits des femmes et des minorités de genre au sein d'Amnesty International France. Bonsoir Lola.
Bonsoir.
Vous nous entendez bien?
Ouais, super bien.
Parfait. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez revenir sur ce que c'est l'IVG d'un point de vue médical, mais aussi social, pour nous rappeler aussi quelles sont les étapes à suivre, par exemple, avant d'avoir recours à un avortement?
Alors, je ne travaille pas dans une association spécialisée sur les questions de santé. Donc, pour toutes ces questions-là, je vous conseille un site, c'est celui du planning familial qui fait un travail remarquable sur la question à la fois de la prévention, de l'accompagnement, des droits et de tout ce qu'il faut savoir. Donc, en fait, il faut vraiment aller sur le site du planning. Mais l'IVG, c'est une interruption volontaire de grossesse. En France, ça peut aller jusqu'à 14 semaines. La loi a changé il y a maintenant 2 ans, qui a permis d'allonger le délai de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines. Ça diffère hein, beaucoup d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de réglementation internationale sur jusqu'à combien de temps on a le droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse. En tout cas, pour nous, c'est un droit et c'est un droit fondamental. Et donc, pour nous, toutes les femmes, toutes les filles, toutes les personnes pouvant être enceintes doivent pouvoir recourir à un avortement quand il et elle le souhaitent.
Et au début de cette interview, on évoquait donc une victoire en demi-teinte. Est-ce que peut-être vous pourriez nous expliquer aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent quelle est cette nuance entre le projet initial de droit à l'avortement et de son inscription dans la Constitution et ce terme de liberté d'avorter qui a été retenu notamment pour les femmes?
Alors oui, c'est le résultat d'un compromis en fait, hein, de passer de droit à liberté pour que notamment les sénateurs LR votent en faveur de ce changement de la constitutionnalisation. Nous, on aurait préféré effectivement que le droit soit inscrit dans la Constitution, puisque le droit en fait aurait permis qu'il y ait plus de contraintes pour l'État de mettre en œuvre tous les moyens pour garantir ce droit. Donc, pour nous, c'est le droit qu'il faut consacrer et non la liberté qui est le pouvoir de légiférer. Mais après, on était assez rassurés parce que le Conseil d'État qui donne en fait des analyses hein, des différents projets de loi qui passent à l'Assemblée nationale et au Sénat, il a donné son avis et son avis dit que le droit de recourir à l'IVG n'aura pas une portée différente de la proclamation d'une liberté. Donc, en fait, le Conseil d'État nous dit là que lui ne voit pas de différence entre droit et liberté dans le cas précis qui est la question de la constitutionnalisation et de la manière dont l'article a été formulé. Mais après, une autre problématique qui a été soulevée et que nous, on a soulevée notamment Amnesty International, c'est que nous, on aurait préféré que ce ne soit pas la liberté garantie à la femme. On aurait préféré justement une approche non limitative de dire que c'est toutes les personnes pouvant être enceintes pour bien prendre en compte la question des personnes trans, des personnes non binaires. Et donc là, aujourd'hui, on a la femme qui a été consacrée. Et pour nous, malheureusement, c'est réducteur puisque pour nous, le droit à l'avortement doit concerner toutes les personnes pouvant être enceintes. Mais là encore, on a eu l'avis du Conseil d'État qui lui parle et dans son interprétation dit bien que ça concerne toute personne ayant débuté une grossesse. Donc là, on voit que le Conseil d'État donne aussi une interprétation qui n'est pas limitative. Mais voilà, malgré ces deux réserves qui sont importantes, hein, enfin, qu'il faut souligner, ça reste quand même une avancée importante et majeure pour les droits des femmes, des filles en France.
Mais alors justement, ce qui est important pour toutes les personnes justement qui souhaitent recourir à un avortement, c'est d'avoir accès à celui-ci à travers l'ouverture de centres où sont pratiqués les avortements, la formation des sages-femmes, la mise en place de moyens humains et financiers. Est-ce que pour vous, ces moyens, ils sont mis en place en France ou est-ce qu'ils sont suffisamment mis en place? Et est-ce que cette constitutionnalisation, elle va venir changer quelque chose? Est-ce que les obstacles, ils vont quand même persister ou il va y avoir des améliorations?
Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, dans le droit, la constitutionnalisation n'entraîne pas directement une amélioration de l'accès à l'IVG sur le territoire français. Et aujourd'hui, bien entendu, on peut s'inquiéter lorsque le planning familial fait un état des lieux de centres d'IVG qui ferment faute de moyens, de délais qui peuvent être extrêmement longs. Dans certaines régions, on peut être à 11 jours d'attente pour avoir un rendez-vous pour pouvoir avorter, ce qui est extrêmement long pour des personnes qui souhaitent avorter. Et un grand nombre de femmes qui doivent changer de département pour obtenir des délais plus courts pour pouvoir avoir un rendez-vous. Donc là, on voit bien qu'il y a un vrai manque de moyens dédié à la question de l'accès à l'avortement dans le territoire, qui n'a pas un égal accès. On peut penser aussi à des zones plus reculées, des zones rurales, ou même l'été. Quelquefois, on a des centres qui ferment l'été, et l'été, ça peut être plus compliqué quelquefois de trouver un rendez-vous pour pouvoir avorter. Donc, il faut plus de moyens pour que ces centres IVG ne ferment pas, plus de moyens donnés aux associations aussi qui informent et donnent accès aussi à toutes les personnes des informations sur leurs droits, les démarches à effectuer si elles souhaitent, il ou elle souhaite avorter. Donc, c'est essentiel. Et cette constitutionnalisation n'amène pas plus de moyens. Elle l'inscrit dans la Constitution et après, c'est une autre bataille et d'autres batailles à mener, et notamment la bataille pour justement faire en sorte qu'il y ait un accès sans discrimination sur les territoires et un accès qui soit dans des délais évidemment corrects. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Donc, vous parlez aussi, entre guillemets, d'une victoire un peu symbolique, puisque dans la pratique, ces obstacles peuvent toujours persister. Mais donc, est-ce que la constitutionnalisation de l'IVG, suite à cette constitutionnalisation, le droit à l'avortement pourrait-il être remis en question dans le cas de l'arrivée d'un gouvernement anti-droit, autoritaire, etc.?
En tout cas, ce sera beaucoup plus compliqué par cette inscription dans la Constitution, puisque pour changer la Constitution, comme on a vu et comme vous l'expliquiez très bien au début de l'émission, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale, puis un vote similaire au Sénat, puis ensuite le Congrès, il faut les 3/5, enfin, donc il y a quand même des garanties qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer la Constitution tous les matins et la modifier à sa guise. Donc c'est aussi que ça reste un socle de droits fondamentaux qui sont inscrits dans notre Constitution, et donc c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir revenir dessus.
Et on entend aussi beaucoup parler de la double clause de conscience des médecins qui empêcherait justement cet accès libre à l'avortement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, est-ce que vous savez si l'objection de conscience elle est en recul en France ?
Alors, en recul en France, ça, je ne saurais pas dire. Ce qui est important, c'est de dire que oui, ça existe, que sur le territoire, des personnes refusent des services de santé pour des raisons de conscience ou de religion. Pour nous, il n'y a pas de droit humain qui fait que des personnes pourraient être amenées à refuser des soins. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des personnes qui souhaitent avoir accès à ces soins y aient accès de manière immédiate, directement, et qu'il n'y ait pas de temps, de délai, à partir du moment où il y a des médecins qui refusent de pratiquer un avortement. La situation est moins grave que, si je peux dire, que dans d'autres pays où la clause de conscience, je pense notamment en Italie, où ça peut atteindre dans certaines régions 84% en fait de médecins dans une région qui ne vont pas pratiquer d'avortement. Donc ça veut dire qu'il faut se déplacer, changer de région. Qui dit changer de région dit que ça veut dire qu'il y a un coût de déplacement important, c'est-à-dire que les personnes doivent prendre des voitures ou doivent prendre le train, en tout cas elles doivent mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire ce déplacement. Et donc aujourd'hui, on voit bien que c'est un frein dans l'accès au droit. Et donc cette clause de conscience des médecins fait que le droit n'est pas appliqué dans certains territoires et qu'il n'y a pas un égal accès suivant là où on vit dans certains pays.
Et est-ce que peut-être vous pourriez nous parler de quelles sont les recommandations peut-être faites pour permettre que l'IVG soit plus accessible à toutes les personnes qui souhaitent avorter voilà, comment faire face potentiellement à ces obstacles qui persistent?
Déjà, on en parlait, c'était la question des centres qui est IVG, qui doivent être accessibles sur l'ensemble du territoire, partout, même dans des zones plus rurales, des personnes qui vivent dans les petits villages plus reculés. Ce n'est pas parce qu'ils habitent dans des endroits plus reculés qu'ils ne doivent pas avoir accès plus facilement à un centre qui pratique des IVG. Donc, c'est la question des moyens là, financiers qui doit être mis en place, et question de déplacement aussi, de se dire, bah, réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour que les personnes puissent accéder à ces centres facilement en termes de transport. Et c'est aussi le fait de pouvoir accéder aussi à des informations, puisque le droit à l'IVG, c'est aussi la question de l'éducation à la sexualité, puisque savoir quels sont les différents moyens de contraception, quels sont les différents moyens aussi pour pouvoir avorter, puisqu'il y a différentes méthodes d'avortement. Aujourd'hui, voilà, on a beaucoup parlé de l'IVG médicamenteuse, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement fiable. Et qui est accessible facilement, sans problèmes médicaux. Et donc, c'est important de le rappeler que c'est extrêmement sûr aujourd'hui d'avorter. Donc, c'est les questions d'accéder à toutes ces informations pour les personnes qui souhaitent avorter, de se dire quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à moi, quelles sont les différentes solutions en termes médicaux, et de pouvoir accéder à toutes ces informations. Sans avoir de fausses informations qui peuvent malheureusement aujourd'hui se propager sur Internet. Et là-dessus, c'est très inquiétant de voir que des fausses informations circulent, souvent par des structures qui sont financées par des mouvements qu'on appelle les mouvements anti-droits, et qui vont être très bien référencées sur le net, et donner des informations fausses aux personnes qui souhaitent avorter.
Et est-ce que justement Amnesty International met en place des programmes, des conférences, je ne sais pas, pour informer sur les droits à l'avortement ?
Alors Amnesty, comme je disais, on n'est pas une structure sur les questions de santé, et on défend le droit, donc on va défendre le droit à l'avortement et l'accès à un avortement sans discrimination sur l'ensemble du territoire. Donc les actions qu'on va mettre en place, ça va être aussi des actions de sensibilisation du public sur ces questions-là. Donc ça va être évidemment Amnesty, on travaille beaucoup avec des pétitions, donc sur notre site internet on va avoir des pétitions notamment pour la question de, puisque là on a beaucoup parlé de la France, mais ce qui se passe aussi ailleurs dans d'autres pays. Et donc on informe et on sensibilise à des luttes de femmes qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'avortement, ou en tout cas même des femmes qui aident d'autres femmes à avorter et qui se retrouvent criminalisées simplement pour avoir défendu ce droit. Et donc je pense notamment à un cas, celui de Justyna Wydrinska, qui est une Polonaise qui a été condamnée en Pologne il y a quelques mois pour avoir aidé une femme à avorter. Et donc on soutient sa situation, et donc on invite tout le monde à la soutenir, Justyna, et elle a fait appel de la décision, et on espère que elle aura de nouveau bientôt un procès et qu'elle pourra être acquittée. Donc il y a plein de femmes dans le monde, et que ce soit aussi des professionnels de santé, enfin plein de personnes qui défendent le droit à l'avortement et qui malheureusement se retrouvent la cible de harcèlement, d'intimidation de la part de gouvernements ou de mouvements aussi anti-droits qui vont les cibler parce que du fait de leur activité, et c'est aussi des mouvements féministes qui se retrouvent aussi la cible de ces attaques. Donc c'est aussi se rendre compte que là, on défend, et ça a été une grande avancée en France, et cette avancée, ça a aussi une répercussion en fait, dans le monde entier pour toutes ces personnes. Et on s'est bien rendu compte qu'on a beaucoup parlé de la constitutionnalisation de l'IVG à l'international et dans d'autres pays, parce que l'état du droit n'est pas le même dans tous ces pays-là. Donc, je parlais de la Pologne qui est en Europe, on oublie souvent, mais Andorre, bon, c'est quand même à notre frontière. Andorre, c'est une petite principauté, mais l'avortement est totalement interdit. Même en cas de viol, même en cas de problème grave pour la mère de santé. Et aujourd'hui, les Andorranes, elles doivent aller en France ou en Espagne pour pouvoir avorter. À Malte, c'est également extrêmement compliqué de pouvoir avorter. Voilà, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi des grandes disparités qui existent sur l'accès à ce droit fondamental, et qu'il est nécessaire aussi de se battre pour nous aussi en France, pour l'accès, mais aussi pour toutes les autres femmes en dehors de la France qui malheureusement n'ont pas accès à ce droit.
Et vous évoquez beaucoup du coup ces cas-là européens où l'avortement est criminalisé etc. Est-ce qu'au sein d'Amnesty, du coup, vous faites un travail de plaidoyer auprès de l'Union européenne pour que peut-être ce critère de... Enfin, pour que la dépénalisation de l'avortement, en fait, soit un critère pour adhérer au sein de l'Union européenne, si peut-être vous pouvez un peu plus nous détailler.
Oui, pour nous, c'est essentiel. Enfin, notre plaidoyer, on le mène au niveau, dans chacun des pays, mais aussi au niveau européen, pour aussi voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'accès à ce droit dans d'autres pays. On a même eu Emmanuel Macron qui a annoncé... Le 8 mars dernier, le fait qu'il souhaitait que le droit à l'avortement soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux au niveau européen. Donc, intéressant de voir qu'il y a cette dynamique-là, ou en tout cas que la France souhaite porter cette dynamique-là au niveau européen. Pour nous, c'est évidemment essentiel que ce droit soit consacré au niveau européen, parce que justement, on se dit aussi à l'avant-garde sur la question des droits des femmes minorités de genre. Malheureusement, on voit qu'il y a de très fortes disparités et de grandes difficultés aussi d'accès à ces droits en Europe, et qu'on n'est pas à l'abri aussi de gouvernements qui tentent de revenir sur ces droits fondamentaux. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir les consacrer au mieux.
Et justement, le 4 mars, Emmanuel Macron a publié sur les réseaux sociaux que la constitutionnalisation de l'IVG, c'était une fierté française, alors qu'en décembre 2023, il disait aussi que l'acteur accusé de viol et d'agression sexuelle, Gérard Depardieu, rendait fiers les Français. Mmh. On a là un président de la République qui souhaite soi-disant faire de l'égalité entre les hommes et les femmes la grande cause de son quinquennat, mais en fait, on observe une réalité un peu différente avec des propos qui sont très sexistes et misogynes. Pour vous, il y a une récupération politique de cette lutte que mènent les féministes ?
Bah, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que, et vous le disiez aussi, c'est-à-dire que la constitutionnalisation de l'avortement, c'était avant tout des projets de loi qui ont été déposés par des partis de gauche, et que, à la base, la majorité n'était pas en faveur, et même Emmanuel Macron n'était pas en faveur, en fait, de la constitutionnalisation. Donc, il a vu qu'il y avait aussi un changement et qu'il y avait aussi, et là, c'est important de le souligner, une opinion publique qui était favorable. C'est-à-dire qu'il y a eu des sondages qui ont montré que près de 86% des Françaises et des Français étaient en faveur de la constitutionnalisation de l'avortement. Et donc, ils ne pouvaient pas être à contre-courant, en fait, de ça. Donc, d'où l'importance de se mobiliser, d'où l'importance de militer, de s'organiser pour défendre ses droits, parce que c'est aussi, quand il y a des mouvements aussi importants, qu'on arrive aussi à faire bouger, en fait, des choses. Et bien entendu qu'aujourd'hui... Le président de la République, voilà, il y a eu des cérémonies très solennelles pour constitutionnaliser ce droit. Et on ne peut que saluer cette victoire. Mais évidemment, après, quand on a une vision globale de l'enjeu des droits des femmes et des minorités de genre en France, on voit bien aujourd'hui que le compte n'y est pas. Et on voit bien qu'il n'y a pas assez de financement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. On voit bien tout ce qui se passe aussi, vous en parliez sur les voix qui s'élèvent au sein du cinéma en France pour lutter contre ces violences, et qu'aujourd'hui, on n'a pas assez, on n'a pas d'actes aujourd'hui qui sont mis en place et de moyens mis en œuvre pour justement faire en sorte que la situation se modifie. Donc aujourd'hui, rien n'est joué sur la question de la lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre en France. Et donc, c'est important de se dire qu'on a beaucoup de combats encore aujourd'hui à mener sur ce sujet-là en France, que là, on a eu une très, très bonne nouvelle, et c'est important de célébrer aussi, de célébrer les bonnes nouvelles comme celle de la constitutionnalisation de l'avortement. Et c'est aussi important de voir aussi toutes les luttes qu'il faut mener maintenant.
Et merci beaucoup, Lola Schulman, d'avoir été à notre micro.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée à vous.
Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.
À bientôt. Et tout de suite, une pause musicale. On écoute You Squad de Luther. Vous écoutez la matinale de 19h.
À cap texter des merguez et des réponses, j'en ai pas trouvé certaines. Je me sens sali par ces gens qui faisaient les gros yeux. C'est bien, j'ai un gros porte-monnaie qui m'éloigne de mes proches. mais dans quel bourbier je suis tombé. Y'avait le feu en bas donc je suis monté. Je me suis pris la tête, je l'ai pas perdu longtemps. C'est pas nouveau. Quand quelqu'un me reconnaît, je fais genre je suis content. Alors que je suis sous l'eau, je suis seul, cette bizarre de vie. Pas de chez moi jeunesse, j'ai pas le permis. Je suis la dar, bientôt chef d'entreprise. Je connais que mon jardin derrière les barreaux de ma fenêtre. Je fais plus la diff entre mercredi et vendredi. Sur les espions, je regarde plus contre mes doigts. Sauf celui qui comprend pas, personne répond jamais aux questions. Je casse le crâne sur le bord du saladier pour séparer le bon du mauvais. Mais je cuisine avec les deux, c'est le don. Ma gueule, ils ont les ronds, c'est que de la fumée qui nous pique les yeux. Ça pue la fin, donc on a développé un vrai flair. J'ai envie de tirer sur les lies avec un vrai fer. Et pour pas me salir les mains, je tremperai chacune des balles dans les terres.
Et c'était You Squad de Luther sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
Il est 19h28 et tout de suite, c'est la chronique de Anne-Sophie.
Parfois, nous sommes pris dans la routine quotidienne. Chaque jour se ressemble. Alors, que direz-vous d'un voyage sans quitter la ville? Nous sommes effectivement à Olympiade, dans les triangles de Choisy. C'est ce qu'on appelle le Chinatown. C'est ici qu'un groupe s'est réuni chaque semaine pour écrire des scénarios.
Allez, 10 minutes, 7 minutes, 3 mots.
Ce n'est pas vraiment un endroit ordinaire, avoue Anna.
Au début, ça fait pas trop rêver, elle a pas l'air très accueillante et elle peut paraître insalubre. Y a énormément de commerce, ça grouille de gens. C'est une ambiance assez particulière, mais finalement, quand on s'y habitue, on lui trouve un petit charme.
Nombreux sont les tours, nombreux les restaurants asiatiques et ceux qui trouvent les tours toutes moches. Parmi eux, Nui.
C'était un gros échec immobilier monumental. Je résume, c'est moche, c'était haut, c'était loin des transports en commun, c'était devenu cher, en plus ça faisait HLM. Pas franchement grand-chose pour motiver les gens à s'installer ici.
Nui est une qui connaît vraiment le coin. Cette guide française est arrivée à Paris dans les années 70 en provenance du Vietnam.
Je vous propose de vous asseoir parce que c'est pour raconter l'histoire de quartier comme ça, un petit peu long.
Elle nous émène dans son monde et devient assez émotionnelle lorsqu'il est question de la guerre du Vietnam.
Il y en a combien qui sont partis, hein?
Beaucoup. Vous avez des tortures, vous avez des exécutions.
Les camps de redressement.
Oui, c'est les camps de redressement, oui, les camps de...
Ouais, si on veut, voilà. Il y a aussi que parmi les gens qui ont quitté leur pays, là, les temples qui ont de la hausse, il y avait la diaspora chinoise. Il y avait déjà des Chinois là, qui étaient là depuis le XVIIe siècle.
Qui étaient au Vietnam, Laos, Cambodge, et qui sont partis eux aussi.
Voilà, parce que ces Chinois, à base, étaient surtout dans le commerce, donc considérés comme étant des capitalistes.
D'accord, oui.
Dans des pays devenus communistes,
ils ont été chassés.
C'est plus pire que c'est pas qu'ils ont été chassés, ils ont préféré partir.
Oui.
Ensuite, elle tient absolument à nous montrer deux temples bouddhistes, un endroit plutôt convivial, quelques retraités prient et mangent. Moi-même, je commence à avoir faim. C'est dimanche midi, les restaurants sont pleins. Lorsque je veux finalement commander une soupe, daba, même le serveur doit rire. Heureusement, il me prévient. Je crois qu'il est temps de rentrer chez moi. Mon petit échappatoire à la routine quotidienne a réussi.
Et c'était Anne-Sophie. Et tout de suite, nous passons au Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Aujourd'hui, je reçois Adrien Seux, responsable du pôle budget, Jérémy Boyer, professeur de communication et chef de communication, et Margot Billot, responsable du pôle communication. Et nous allons parler du salon de la nutrition de l'école diététique et nutrition humaine. Bonsoir.
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 Vous allez bien ?
Bah, très bien, et toi ? Et vous ?
Bon, on peut se tutoyer, pas de soucis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce salon ? Il a lieu quand ? Où ?
Donc c'est le salon de la nutrition de l'EDNH. Et donc ce salon se déroule le 15 et 16 mars, 13 rue de la Fontaine au Roi, dans le 11e arrondissement, proche République.
Ok. Alors, pourquoi avoir créé ce salon ?
Alors, ce salon a été créé à l'initiative de l'école, dans le cadre de nos études, puisqu'on est en troisième année et notre diplôme nous donne chargé de projet en nutrition. Donc l'école souhaite mettre en avant l'aspect projet et donc nous incite à monter ce salon de A à Z pour qu'on puisse gagner en compétences, en professionnalisme, etc.
Et il y a également un but, c'est de sensibiliser le public à plusieurs sujets. À quel sujet voulez-vous sensibiliser le public cette année ?
Bah, le thème cette année, donc c'est l'enfant, et on voulait partir sur l'obésité, parce que l'obésité infantile, elle a été multipliée par 10 en 40 ans, et c'est un sujet actuel dont il faut vraiment parler.
Donc là, on parle mondial ou seulement en France ?
Alors, l'obésité infantile a été multipliée par 10 dans le monde, mais en France, on constate que le nombre d'obèses a doublé, et d'autant plus chez les enfants.
Ok, parce que c'est vrai que souvent quand on pense à l'obésité, on pense directement aux États-Unis, mais vous me dites que ça a augmenté en France. D'où vient ce problème ? Est-ce que les cantines scolaires sont satisfaisantes ?
Alors les cantines scolaires, elles sont plus ou moins satisfaisantes. Les menus sont normés, enfin c'est réglé par des diététiciens. Chaque collectivité ne fait pas ce qu'ils veulent, mais après, on fait avec les moyens du bord, donc des produits peuvent être de qualité et d'autres un peu moins bonne qualité liés au budget, notamment par exemple à l'inflation en ce moment. Il peut y avoir un impact du coup sur l'équilibrage des menus. Mais l'aspect des menus reste quand même équilibré car c'est réglementé.
Est-ce que du coup vous pensez qu'avec l'inflation avançant, Le rapport à l'alimentation peut se dérégler, justement, on va avoir une moins bonne alimentation ?
C'est possible, oui, selon les familles, selon leurs moyens. Il y a des familles qui peuvent du coup se diriger vers des produits de moins bonne qualité, avec des produits ultra transformés. Et il y a d'autres familles qui peuvent ne pas être impactées, tout dépend le revenu de la famille.
Très bien, et les premiers impactés, c'est les enfants ?
Ça peut être la famille en entier. Après, oui, les enfants, pourquoi pas ? Parce que y a beaucoup de produits alimentaires infantiles qui sont finalement, quand on regarde la liste des ingrédients, pas forcément bien équilibrés. Et par manque d'argent, ces familles peuvent se diriger vers ce genre de produits infantiles, même pour aussi gagner du temps, une question pratique.
D'accord. Une autre question, je crois que vous abordez sur le salon, que l'alimentation est liée au bonheur, si j'ai bien compris. Pas du tout ? Donc j'ai cru voir un moment, j'ai cru voir qu'il y avait un stand
côté
qui...
plaisir.
Côté plaisir, oui. Pardon, excusez-moi.
Oui, on a voulu mettre en avant l'alimentation infantile et le côté plaisir.
D'accord.
Parce que on constate qu'en tant que futur diététicien, il y a beaucoup de stéréotypes, des gens qui veulent bien manger sans se faire plaisir, et nous, notre rôle, c'est vraiment tout le contraire, c'est garder une bonne alimentation tout en gardant le plaisir.
Mais c'est un truc très vrai parce qu'on voit tout ce qui arrive en termes de nouvelle alimentation, des cocktails détox, comme on appelle ça. J'en ai goûté quelques-uns et c'est vrai que ce truc au brocoli ou quoi que j'ai pas forcément aimé. Et mais du coup, vous trouvez une sorte d'égalité là-dedans, comment se faire plaisir tout en mangeant bien, finalement.
Oui, oui, oui. Justement, on a même une conférence lors du salon qui va parler du plaisir. Le plaisir avec le goûter, comment par exemple se faire un goûter équilibré tout en se faisant plaisir. Okay. On a une conférence qui va parler de la gourmandise, du plaisir, du petit déjeuner jusqu'au dîner pour les enfants.
Okay. Et je crois que vous avez également un site internet.
Ah, mais oui, dites donc.
Alors qu'est-ce qui se passe sur ce site ?
Non, mais c'est vrai que moi j'interviens en tant que prof de communication digitale, oui. Parce que les étudiants de l'EDNH ont vocation après à devenir à travailler. Normal,
ouais.
Et potentiellement lancer à leur compte avec ce que ça implique en termes de communication et de communication digitale. Donc il y a la partie réseaux sociaux et le fait de lancer un site internet pour faire la promotion notamment du salon. Avoir un certain nombre de compétences, pas que techniques, mais aussi un petit peu commerciales, quoi, pour parler vulgairement.
Oui, parce qu'aujourd'hui la nutrition et la sensibilisation à celle-ci, ça passe par les réseaux.
Oui, ça passe beaucoup par les réseaux, avec ce qu'on a de bien et de moins bien. Donc c'est déjà bien les utiliser. Et aussi parce que si vous tapez diététicien nutritionniste Paris sur Internet, vous allez retrouver quand même pas mal de monde. Donc c'est comment un petit peu mettre en valeur son offre et sortir son épingle du jeu. Via le salon, notamment. Okay.
Et c'est un métier qui est de plus en plus pratiqué, justement, qui est en train de sortir.
Alors, j'aurais pas de chiffres précis, mais c'est vrai que j'en vois ne serait-ce que dans mon entourage. De personnes âgées, contrairement aux étudiants, j'en vois de plus en plus et sur des thèmes très divers et variés qui vont mêler par exemple ça avec de l'hypnose, etc.
Ah oui, donc il y a vraiment de tout, quoi.
On est sur quelque chose de, je pense, très très concurrentiel, mais peut-être que vous le voyez vous au quotidien, puis il y a,
oui,
ça à côté, tous les gens qui vont s'improviser, nutritionnistes, qui vont donner des conseils. Avec toujours pareil, je disais ce qu'on a de bien et de moins bien, quoi.
Parce qu'il n'y a aucune obligation de diplôme pour un nutritionniste. Comment ça se passe ?
Alors,
pour un nutritionniste, aujourd'hui on peut être nutritionniste en 15 jours via une formation sur internet. Mais d'accord. Du coup, ces personnes-là, elles n'ont pas forcément les connaissances que nous on a. Donc il y a diététicien où il faudra un diplôme d'État, un BTS. Et le bachelor, nous, il nous offre le poste de chargé de projet et entre autres nutritionniste.
Ok, très bien. Eh bien, c'est très intéressant de comprendre de ça. Pourquoi est-ce que, selon vous, les gens, les auditeurs, doivent aller au salon ?
C'est un salon familial. C'est un salon familial. En plus, il est gratuit.
Mm-hmm.
Ce salon va permettre d'apprendre plein de belles choses, de s'instruire et de passer de bons moments. Notre but, c'est vraiment de faire un événement dans la joie, la bonne humeur. On organise une tombola à la fin, donc les visiteurs peuvent avoir des lots à la fin. Le but, c'est vraiment que les enfants aient toutes les clés en main pour avoir une bonne alimentation, et surtout les parents pour qu'ils puissent transmettre tout ce qu'ils ont appris à leurs enfants et qu'ils aient une bonne alimentation en sortant de ce salon.
Ok.
C'est notre but.
Si je peux me permettre aussi, au-delà de ça, c'est un projet étudiant. Il y a eu un gros travail sur la qualité des stands, la qualité des conférenciers, sur la communication. Ils sortent de 3 jours au salon Baby, Porte de Versailles. Il y a eu un très très gros travail, donc c'est aussi venir, c'est aussi les récompenser de ce travail-là, pour lesquels je le félicite d'ailleurs.
Merci.
Eh bien non, vous avez raison, parce que c'est vrai que monter un salon, c'est quand même un énorme projet. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas comme ça. Et donc,
Et ça reste pas leur métier, métier de base, quoi.
Et vous avez totalement raison. Et c'est la fin de ce Zoom. Et donc on se donne rendez-vous le 15, 16 et 20 mars, c'est ça ?
Comment ? Juste 15 et 16 mars.
Ah ok, j'ai du mal. Alors 15 et 16 mars, rappelez les horaires. C'est du
9h-17h. Et donc, l'événement est gratuit. On conseille une réservation via Instagram. On a un lien de réservation. Et après, si les gens n'ont pas de réservation, la porte restera ouverte quand même.
Ok.
Et le programme est sur le site internet.
Et oui, le site que vous avez créé vous-même. Et merci beaucoup d'avoir écouté ce Zoom. Nous vous offrons maintenant une pause musicale dans vos oreilles. C'est So Amazing de Falada Freddy. Vous écoutez la matinale de 19h. Amazing, amazing flower like this. Early in the morning, as I emerge with the rising sun, I can't help smiling, thinking of all the best things to come. I've got issues, just like any other one. Fears are gone, 'cause you're so, 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 so amazing. Look at the rainbow, drawing the colors of the universe. This is a new hope, announcing the end of a violent storm. It's beginning a new dawn, all my sorrows are gone. You are the flower that blooms, and know the fragrance in my life. The weather is blazing, and I'm teasing you. My beautiful flower, we both burst in laughter, like children, and I found again. You so, 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 so amazing, eh? You so, 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 so amazing, amazing, amazing flower like this I've never seen. Et c'était So Amazing de Falada Freddy sur Radio Campus. Il est 19h43.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Et il est venu le temps du deuxième Zoom avec Justine Vunda qui reçoit Falada Freddy pour son second album Golden Cages.
Yes, bonsoir Falada Freddy. Merci de nous avoir rejoints à la matinale de 19h.
Merci de m'avoir.
Falada Freddy du coup, est un artiste chanteur et rappeur sénégalais au style unique, comme on vient de l'entendre sur nos ondes avec un extrait de son dernier album. Et Falada, en fait, dans ton dernier album, Golden Cages, vient de sortir là.
Oui, c'est sorti c'était le premier.
Ouais.
Et là, je suis très très content. Il paraît que c'est deuxième sur iTunes et tout ça, donc je suis très heureux.
Yes, et c'est mérité, franchement, je l'ai écouté en entier.
Merci.
Et on y entend, comme à ton habitude, des sonorités qui sont exclusivement organiques, c'est-à-dire qu'on n'entend vraiment que des voix et des percussions corporelles. Yeah. C'était déjà le cas pour ton premier album.
Oui.
Et pourquoi est-ce que tu privilégies cette instrumentalisation du corps plutôt que des instruments auxquels on a l'habitude d'écouter habituellement?
Je pense que c'est un rêve d'enfant que je suis en train de réaliser parce que j'ai créé mon premier instrument à l'âge de 6 ans.
Créé ?
Oui.
C'est-à-dire ?
Je voulais faire une guitare. D'accord. Donc j'ai pris les pots de oil can, les trucs de huile, les boîtes d'huile.
Ah oui, d'accord. Ah, okay.
Et puis je suis allé prendre des planches, les planches des menuisiers et des fils de pêcheurs. Et puis, j'ai fait une sorte de guitare comme ça. Mais je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait accorder une guitare et qu'il fallait ça. Donc, j'ai commencé à jouer ça. Mm-hmm. Et puis, je faisais aussi mes propres sabars. Mais le sabar, c'est le tam-tam. Mm-hmm. Quand il y avait, par exemple, les fêtes de Tamkhari, qui veut dire le nouvel an pour nous, on faisait nos propres tam-tam. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer un peu de la percussion. Et puis, il y avait un groupe qui répétait à côté de chez moi. Il y avait un bassiste. qui aimait Jaco Pastorius, donc le jazz. Et chaque fois, j'étais très jeune. Et puis, chaque fois qu'il finissait de répéter, il disait aux musiciens, ne partez pas, laissez chanter le jeune, laissez chanter le petit. Et donc, quand je finissais de chanter, je me mettais avec lui pour le voir jouer à la basse. Donc, mon premier instrument, c'est la basse.
D'accord.
Et donc, après, j'ai donc, qui dit parle de basse, parle de guitare. Donc, après, j'ai joué le clavier, le piano, la batterie. Par la suite, j'ai commencé à, voilà, à m'intéresser un peu aux instruments. J'ai commencé à rapper dans les années 90. Et j'étais voilà, et puis ça a marché alors que j'étais encore à l'école. J'ai signé chez, aujourd'hui ça s'appelle c'est Sony Music, assez jeune. Et donc je suis venu en France dans le hip-hop à l'époque en faisant du breakdance, tout ça. Et après j'ai été signé en Angleterre chez Ross Record. Et puis et là c'était aussi le hip-hop. Et ce qui s'est passé, c'est que puisque je composais beaucoup pour le groupe dans lequel j'étais, qui est un groupe de hip-hop, ça m'a amené à essayer de comprendre plus la musique parce que j'étais avec des jazzmen et qui me disaient « Ouais, c'est du phrygien, du mixolydien. » J'ai dit « Mais c'est quoi ça ?»
Donc, ces termes.
Voilà, donc je suis allé apprendre la musique moi-même et comprendre comment ça fonctionne. Ma curiosité s'est développée de jour en jour et je me suis retrouvé à essayer de comprendre les fréquences. Les fréquences, à savoir les fréquences qui peuvent guérir, les fréquences qui peuvent rendre agressives, les fréquences comme le 808. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'hip-hop, ça fait avec le 808, tu peux, exactement, tu peux quand même donner des fréquences qui peuvent arrêter un battement de cœur, te donner l'impression que tu ne respires pas et tout ça, on le sait dans la musique.
Donc
avec ça, j'ai commencé à faire des musiques de films. Et à un moment donné, j'ai eu marre des instruments et j'ai fait, ok, j'ai fait un album sans instruments et ça, c'est mon deuxième album.
Donc, multi-instrumentiste, mais tu as choisi le corps pour exprimer ta musique.
Oui.
C'est magnifique, je trouve.
C'est que du bonheur.
Et ton dernier album sort après plusieurs années d'absence.
Oui.
Golden Cages, par rapport à Gospel Journey, c'est quoi son message unique?
Ah, là, excuse-moi, c'est comme ça. C'était pendant le confinement.
Ouais.
Et j'avais vu que tout le monde était enfermé.
Mm.
Et les gens avaient peur les uns des autres. Tu voyais un couple dans une même maison, ils ont peur l'un de l'autre, alors qu'ils vivent ensemble. Et y a la distance s'est créée de plus en plus. Tout le monde attendait que le système nous dise quelque chose pour aller le faire. On se soumettait, on attendait que le maître décide et qu'on fasse. Alors, juste à la porte d'à côté, en Suisse, il n'y avait pas de police qui contrôlait les gens. Les gens étaient responsabilisés. Chacun était responsable. Ils n'étaient pas contrôlés. Ils sortaient dans la rue. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ils allaient de leur propre gré chez eux. Et plus tu allais d'une zone à une autre, tu te rends compte que pour les pays voisins, tout pouvait du tic au tac changer.
Ouais.
Alors, je me dis qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des cages invisibles qui sont dans la tête de tout un chacun et dont il faut se libérer parce que je voyais des couples qui se séparaient et tout ça avait engendré tellement de choses. Je me suis dit, on est vraiment dans une prison et il faut sortir de cette prison. Alors je me suis dit, je vais écrire ce morceau-là qui dit déjà pour la première phrase, elle dit, je n'ai pas honte d'arpenter un autre chemin. Tournez-moi le dos. De toute façon, I don't care. Je dis, de toute façon, quoi qu'il arrive. Parce qu'à un moment donné, la liberté, ce n'est pas quelque chose où on demande l'autorisation. La libération, pour l'avoir, il ne faut pas demander l'autorisation. Il faut juste savoir qu'on a le droit d'être libre et se l'arracher. Et au moment où tu dis, je vais demander l'autorisation, c'est là que toi-même, tu t'octroies un maître.
Ah oui.
Et pour avoir la liberté, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise, nous valide. Donc voilà, j'ai décidé d'être un homme libre et ça a commencé dans la tête. Donc j'ai écrit Golden Cages, les cages dorées.
Et de prendre la liberté sans demander, du coup.
Oui.
Super beau. Je suis super inspirée par ce que tu dis.
Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ah,
mais c'est vrai. Dans l'album, moi, mon morceau préféré, c'était Africa Nangalef.
Oui.
Avec la voix magnifique d'Angélique Kidjo.
Elle est magnifique.
Ouais.
Elle est magnifique. Je suis fan d'Angélique Kidjo.
Ouais.
Je pense qu'elle a révolutionné ma manière de voir.
Ah ouais?
Oui.
D'accord.
Et parce que elle a amené quelque chose de funk dans la musique africaine, dans la musique béninoise. Et c'est une femme, c'est une Amazone. Moi, j'avais déjà étudié l'histoire de Benzin, qui a beaucoup inspiré Woman King, le film, et ainsi que Wakanda et tant d'autres choses. Et de voir l'incarnation de vivante de l'empire de Benzin, une femme qui danse, qui chante, qui saute et qui transmet une énergie aussi vitale, Ça, ça m'a beaucoup inspiré. Et du coup, ça fait longtemps que j'avais envie de travailler avec elle. Et quand je lui ai fait écouter le morceau Africa Nangadef, elle a écouté, elle m'a dit, je ne vais rien toucher de ce que tu as fait. Tout est parfait, les liens qui sont parfaits. Wow. Je ne touche rien. Je vais chanter exactement ce que tu veux que je fasse. Et là, c'était comme... Voilà, je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai ressenti.
C'est un honneur, quoi.
Mais c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Ça fait, ça fait longtemps que je pourchasse ce rêve-là. Et de me donner cette occasion, je pense que je suis reconnaissante. Je serai toujours reconnaissant par rapport à Angélique.
Ouais. Et d'ailleurs, Nangalef, ça veut dire comment allez-vous en Wolof?
Et ou Africa ni warembo? C'est du Swahili.
Ah ouais?
Pour dire Africa, on est beau.
D'accord. Ah,
parce que je parle aussi de la beauté de l'Afrique. Dans ce titre, je considère l'Afrique comme une mère, comme une personne, comme une maman.
Ouais.
Et je lui dis, malgré tout ce que tu as traversé, comment ça se fait-il que tu gardes encore le sourire et que tu nous inspires comme ça? Donc, la maman africaine, ce n'est pas une femme... En tout cas, ma mère, par exemple, je ne l'ai jamais entendue crier « Je suis stressée !» On ne connaît pas ça.
Ouais, c'est vrai.
Ou bien dire « élever la voix ». Je ne l'ai jamais entendue élever la voix, ma mère. Et du coup... quand tu grandis dans ça, et après, quand j'ai eu des enfants, que j'ai eu la responsabilité, j'ai fait, mais comment elle faisait pour ne pas craquer? Comment elle faisait pour garder toujours cette décence, ce calme, cette grâce? Et elle est toujours comme ça. Et du coup, je l'ai identifiée à Mama Africa, que Mama Africa a subi des choses, a eu tout ce qu'on a traversé, l'esclavage et tout le reste, ses ressources pillées, machin et tout ça. Et l'Africain a le sens de l'humour. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu dis, c'est comment ici? Et papa, ici, c'est caillou. Hein. Tu peux te dire qu'ici, c'est dur.
Ouais.
Tout est imagé. Il y a toujours les opportunités pour rigoler. Mm. On sent bien quand on est là-bas, alors qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont... En Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre, il y a eu des choses.
Ouais.
Au Sénégal, il y a eu des émeutes et tout ça, avec pas mal, même des morts et tout ça. Et une fois que c'est fini, tu retournes. Tout le monde a le sens de l'humour, comme si les blessures pouvaient guérir très, très vite. Mm. Et donc, voilà, j'ai parlé de la force de l'Afrique, de comment elle inspire le monde aujourd'hui avec sa gratitude, avec son sourire.
Okay.
Merci beaucoup pour cet entretien très, très inspirant et très beau. Merci à vous deux, à Justine et à Fada Freddy, ton invité. Il est 19h52 et vous êtes toujours sur Radio Campus.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et on retrouve tout de suite Pascal Dog pour ta chronique.
Oui, alors aujourd'hui je mets ma casquette de coach de vie et vous livre des astuces pour bien-être, pour améliorer votre quotidien. Vous pourrez retrouver tous mes conseils sur mon blog L'Épicurieuse avec des citations inspirées comme « Il n'y a pas de mal à se faire du bien » et « L'humain peut te tromper, te blesser, te trahir, alors que le chien, lui, t'aimera toujours tel que tu es ». Si, comme moi, et malgré les événements réjouissants de ces derniers jours, comme l'IVG dans la Constitution, le 8 mars, vous sentez encore de l'anxiété, toute l'anxiété du monde qui vous pèse et que votre vie personnelle est dans une phase difficile, regardez un petit film d'horreur. Grâce à un effet simple, on pense moins à l'échec, au chômage et aux maladies longue durée quand on réalise qu'on n'est pas poursuivi par des forces démoniaques. Si je connais bien ce genre de film, c'est pour deux raisons. Et la première, c'est que j'en ai vu plein. Mais loin de renforcer ma tolérance à l'horreur, ça l'a diminué et je suis devenue une grosse flippette. Néanmoins, mon conseil tient toujours. Il suffit de regarder non pas le film, mais sa bande-annonce sur un petit écran, genre l'hôtel, sans le son. Et quand ça commence à faire vraiment peur, on ferme les yeux. La deuxième raison, c'est qu'il s'agit, et même ne s'agit-il pas du moyen le plus efficace pour détecter les peurs les plus intimes de nos contemporains? On est aussi philosophe chez l'Épicurieuse. Ainsi est sorti il y a 3 mois le film Night Swim, qui nous révèle que nos contemporains commencent à avoir peur des piscines creusées. Alors c'est une famille de beaux Américains blancs et riches qui s'installent dans une belle maison moderne, dont la piscine n'a pas été utilisée par les précédents propriétaires depuis 15 ans. Horreur, les anciens propriétaires n'étaient pas des écolos radicaux, mais ils avaient compris que remplir la piscine faisait apparaître des morts-vivants dans son filtre. Alors avec un tel scénar, on s'est dit chez l'Épicurieuse que nous aussi on voulait se faire du fric. Et nous ne ferons pas des productions pour les aquaphobes, nous visons le marché encore inexploré des films d'horreur pour parents queer. Et je voulais vous faire une bande-annonce. Une famille américaine, deux mamans et un petit garçon de 10 ans, Ryan.
Maman, je t'aime.
Ryan est né grâce à une PMA. La famille est heureuse, épanouie, jusqu'au jour où... Le père biologique de Ryan est mort. Quoi ? Il a été assassiné. Un père, une mère, il n'y a rien à faire. Ryan est bizarre à l'école, il ne parle plus aux autres enfants. Plus grave, il est violent avec les filles. Séparatisme républicain. Commissaire, la banque de sperme a subi une intrusion, il y a 10 ans. Les antiracistes sont les vrais racistes. Il se pourrait que le père biologique de Ryan ne soit pas ce brave Gary. Action française. Il y a cet homme qui est venu parler à Ryan. Il faut sucer pour être logé. Je suis le père de Ryan. Je suis Gérald Darmanin. Non. À vos caméras, les artistes. J'ai un petit temps avec Géraldine et monté après, mais vous avez compris l'intérêt de ce film.
Merci beaucoup, Pascal Doc.
Énorme.
Et merci beaucoup. La matinale s'est terminée pour ce soir. Et merci à Elodie Reynaud et Sylvie Hardibay pour l'interview, ainsi qu'à Lola Schumann, leur invitée. Merci à Anne-Sophie pour sa chronique. Merci à mes invités Adrien Seux, Jérémy Boyer et Margot Billot pour le Zoom. Merci à Justine Voudda et à Fahad Afredi, son invité. Merci à Jeanne pour la réalisation. Et merci à Héloïse et Lucas pour la coordination, ainsi qu'à Pascal Doc pour sa chronique. Je l'ai oublié. Et on revient demain, même heure. D'ici là, rendez-vous sur radiocampusparis.org pour écouter tous nos podcasts, la matinale de 19h sur Twitter et la matinale RCP sur Instagram. Très bonne soirée sur le 93.9 et à demain.